le petit livre sur le cinéma fait partie d'une collection.
Normal.
Effectivement, personne ne ferait un livre sur la littérature ou sur la peinture ou sur l'architecture en général. Mais on a encore l'impression que le cinéma, c'est un phénomène. Et donc, il faut écrire un livre sur le cinéma en général. Donc, c'est un livre qui doit être en principe pour un public large. Et la collection a aussi des normes, c'est-à-dire que la collection, chaque livre est en deux parties. Une partie qui sont des faits et une autre partie qui est destinée à la réflexion. Et donc c'est à partir et à un certain nombre de pages très précis, un certain nombre de mots précis, on ne peut pas dépasser. Donc on a tout le cinéma pour très petit volume. Et ce que j'ai essayé de faire justement, c'est dans une première partie de casser cette idée de cinéma comme un phénomène dont on pourrait parler généralement en parlant de la diversité des possibilités esthétiques du cinéma. Et dans la deuxième partie, c'est disons une réflexion générale sur le cinéma, mais depuis le début jusqu'à la fin, c'est un livre en même temps historique et en même temps théorique-esthétique sur le cinéma.
Alors, ça paraît, c'est une question de méthode, en fin de compte, parce qu'écrire un livre comme cela, ça suppose donc effectivement faire passer des idées qui sont complexes le plus clairement possible. Alors, du point de vue de l'évolution historique, vous rappelez, en tout cas, deux des grands... c'est Lumière et Méliès. On va peut-être partir de là, parce qu'en plus, vous allez y revenir à la fin du livre pour justement dire que c'est peut-être eux qu'il faut continuer. Et donc, on pourrait peut-être partir de là. Alors, vous dites à propos de Lumière, c'est le reflet du réel. Et à propos de Méliès, c'est le réel de l'image. Alors, ou la réalité de l'image. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces termes pour les définir et puis revenir sur ces idées, dire exactement ce que ça veut dire et en quoi Lumière et Méliès se différencient justement?
Cette différence entre Lumière et Méliès, maintenant, je dirais que a plutôt mauvaise presse parce que avec les nouvelles techniques de l'image, surtout avec l'utilisation faite par la télévision comme une sorte de flux continu entre ce qui est du document et ce qui est de la fiction, on arrive à une sorte d'indifférenciation complète. Mais je pense que quand même cette différence entre ces deux noms, parce que de manière immédiate, dès que Méliès voit la première projection des frères Lumière, il pense qu'il peut en tirer autre chose, c'est-à-dire qu'il peut transformer ça en exercice de magie. Et c'est immédiatement comme si de l'image de la réalité, il avait sorti la réalité de l'image. Et je crois que ça, c'est une dualité, c'est comme une sorte de Janus à deux faces. Et tout le cinéma, toute la diversité du cinéma est fondée sur cette possibilité. Parce que il y a eu beaucoup de théories pour dire que le cinéma est simplement l'image du réel, surtout depuis l'existence du néo-réalisme, depuis Bazin et jusqu'à maintenant. On considère que le cinéma est simplement, la caméra est un moyen de révélation de la réalité, en oubliant qu'immédiatement, la réalité devient image et il y a une réalité de l'image qui en fait autre chose. Donc c'est cette double relation et cette relation entre ce qui est l'aspect scientifique en quelque sorte, parce qu'il ne faut pas oublier que les frères Lumière ont inventé le cinéma comme un appareil scientifique, et d'ailleurs Lumière avait dit que la caméra c'est un instrument scientifique, le cinéma n'a pas d'avenir. Alors cet avenir, c'est le Méliès qui l'a inventé, parce que d'ailleurs il y a Wells qui a dit une fois que sans Méliès, le cinéma aurait été une sorte de baleine empaillée, parce que ça n'aurait jamais dépassé la foire qu'on l'utilisait comme une sorte de curiosité scientifique, simplement pour la reproduction du mouvement. Et donc, je pense, que cette diversité, c'est cette dualité qui est en même temps une sorte d'unité, parce que chaque image en même temps, c'est la caractéristique même de l'image de reproduction, de reproduire quelque chose, et en même temps d'être une image. Et ça, c'est sur toute cette relation, je pense qu'on peut faire toute une histoire du cinéma à travers les divers modes de relation qui existent entre ces deux.
Mais alors, à propos de la caméra comme technique, c'est un moyen de... C'est quoi la caméra? C'est quelque chose qui enregistre le monde, qui le reproduit Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Elle est neutre ou faut-il une présence?
La caméra est censée enregistrer, mais la caméra est née à l'intérieur d'une histoire. C'est à un moment donné où la technique et la science est dominante. Donc, mais la technique et la science ne sont pas neutres. En plus de ça, la caméra, dès qu'il y a un choix d'objectif, un choix d'angle, un choix de cadre, donc il y a une intervention. C'est dès le départ. Même chez Lumière, parce qu'il y a une mise en scène, parce que quand on regarde bien les vues Lumière, il y a toujours une mise en scène, même dans les premiers films, parce qu'ils ont fait plusieurs versions de la sortie des usines Lumière, on voit très bien qu'il y a une mise en scène dans les films. Alors, je pense que l'existence du cinéma répond à deux tendances du 19e siècle. Ça a eu une tendance qui était la tendance justement scientifique, l'industrie, la technique, la reproduction, la réalité. Et puis l'autre tendance qui a été théorisée comme l'œuvre d'art totale qui a eu la forme très développée de l'opéra. Et je pense que ce qui s'est passé avec cette invention du cinéma, le cinéma quand il s'est développé, il a détruit quasiment l'opéra. Et il a remplacé l'opéra.
Même en Italie,
parce que il ne faut pas oublier qu'un des derniers opéras de Puccini s'appelle La Fanciulla del Vest. Ça veut dire c'est un western. Et ça, tout simplement, et même la bohème, déjà, il y a énormément d'éléments réalistes qui interviennent, et il sait parfaitement que c'est terminé. D'ailleurs, il n'y a plus eu d'opéra après Soderbergh, et surtout si on regarde les salles du cinéma, les premières salles du cinéma, c'était une sorte de reproduction des salles d'opéra avec les escaliers. Bon, pour l'opéra, c'était pour la grande bourgeoisie, et là, ça c'était pour la petite bourgeoisie et pour le peuple. Le cinéma est devenu à remplacer, est devenu la fête et le prodige pour les foules anonymes des grandes villes. Et ça a été la grande, grande fonction du cinéma pendant tout ce siècle. Il ne faut pas oublier qu'il y a des moments où il y avait des dizaines ou des presque centaines de millions de gens par jour dans les salles du cinéma. Et ça, c'était un phénomène extraordinaire. Et je pense qu'une très grande partie de ce qui s'est fait dans le cinéma, aussi bien depuis les années 20, tout ce qui était porteur de fiction et d'émotion au cinéma, c'était plutôt, on a toujours comparé le cinéma au théâtre, au roman, etc. Mais je crois que les grands films, ce qui atteignait une force d'émotion et qui faisait image et qui marquait, c'était plutôt le modèle, c'était la répétition du modèle de l'opéra.
Alors, au début, le cinéma est à inventer. Alors, Méliès lui donne sa fonction magique, la magie du celluloïd, comme vous dites dans le livre. Mais les pionniers, au début, le champ est ouvert. Est-ce qu'ils sont très féconds?
C'est-à-dire que le cinéma, on ne savait pas. Tout était possible. On croit d'ailleurs que tout était possible. Peut-être qu'en regardant tous les films des pionniers, on voit que absolument tout n'était pas possible, mais tout était possible dans la mesure où rien n'existait. Donc il fallait tout inventer, il n'y avait pas de public, il n'y avait pas d'organisation, et dès que les salles du cinéma ont commencé à exister, dès qu'il y a eu une production, dès qu'on a plus ou moins compris que ça pouvait se transformer en marchandise, et plus tard, dès les années 1910-1912 aux États-Unis, on est extrêmement conscient que le public du cinéma essentiellement c'est un public populaire, donc qu'il s'agit plus ou moins d'influencer le public populaire. Et il y a une mise en place de plus en plus de modèles de narration, de modèle de réalité qu'on vous montrait. Mais effectivement, cela n'arrive à dominer entièrement, je crois, qu'avec le cinéma sonore. Parce que le cinéma muet, il y avait un manque absolu dans le cinéma muet. C'est-à-dire que même si c'était la reproduction de la réalité, c'était comme la reproduction des spectres, il y avait des choses qui ne pouvaient pas se dire, et donc on était obligé de les créer plastiquement ou cinématographiquement. Ce qui a fait que, étant donné en plus qu'on était dans les années 10 et dans les années 20 surtout, à une époque des avant-gardes artistiques, dans tous les pays, et essentiellement en Europe, il y a eu dans chaque pays des tendances très différentes d'invention de cinéma, de possibilités de cinéma très très différentes. Alors, il y a eu l'expressionnisme en Allemagne, qui est tout entièrement centré sur le problème de l'image, et toute l'école soviétique qui est une école avec différentes formes de montage, ou alors le cinéma français sur le problème du rythme de la construction, ou alors le cinéma suédois qui était un cinéma de lyrisme de la nature. Et à côté de cela, parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que le cinéma, en tant que la reproduction technique, c'est Benjamin qui avait dit, c'était la liquidation de la tradition. Et tous les pays européens, ils ont une histoire, ils ont une histoire culturelle. Et c'est le cinéma est inventé en France, la caméra est inventée en France, la caméra va de l'Europe en Amérique, et l'art du cinéma vient d'Amérique en Europe. L'art du cinéma vient d'Amérique en Europe parce qu'en Amérique, il n'y a pas de présupposé, ni historique, ni culturel. Ce n'est pas un pays fondé sur une tradition, c'est un pays fondé sur un projet d'action. Essentiellement, ce qui fait que les films américains sont centrés sur l'action, et une action qui doit pouvoir être comprise immédiatement, doit être transmise immédiatement avec une sorte de forme universelle. Et c'est cela qui va aboutir petit à petit à la constitution d'un cinéma classique complètement, dans lequel, à la différence de ce qui se passe dans le cinéma européen, qui viennent d'une tradition culturelle et qui viennent des avant-gardes, dans le cinéma européen, qu'il s'agisse de l'expressionnisme allemand, qu'il s'agisse de l'avant-garde française ou du montage soviétique, tout l'effort est porté sur le sens du matériau. Tandis que dans le cinéma américain, il y a une supposition, c'est le cinéma classique, le cinéma américain, c'est le seul cinéma dans lequel on pense qu'il n'y a pas de différence entre l'image de la réalité et la réalité de l'image. Qu'en fait, la réalité de l'image, c'est la révélation c'est une image de la réalité, mais une image de la réalité sublimée. Et pour la conjonction des deux, et c'est cela parce que bon, il y avait un public immense aux États-Unis, il y avait beaucoup beaucoup de gens, et en même temps le cinéma avait une fonction de constitution idéologique aux États-Unis, parce que les gens venaient de tous les pays, étaient de toutes les origines sociales, et ils n'avaient pas de passé culturel, il fallait que ça soit immédiatement visible, compréhensible pour tout le monde. C'est ça qui a fait la force aussi, non seulement pour les gens qui avaient émigré aux États-Unis, mais pour tous les autres qui étaient restés chez eux. Et donc c'est ça qui a fait un peu la force de ce cinéma. Alors ça continue, surtout, bon, quand il y a le cinéma parlant, toutes les écoles, les différences qui existaient dans le cinéma muet, disparaît, parce que bon, il y a l'importance des techniques, l'importance du studio surtout, qui fait que, surtout parce que les films commencent à coûter très cher, ce qui fait qu'on ne peut plus aller tourner avec une caméra, avec une petite équipe pour faire un film sonore. Il fallait des studios, il fallait énormément, donc il y a la mainmise de plus en plus des studios sur la, il y a on ne tourne plus à l'extérieur, même l'extérieur est mis en boîte comme transparent, c'est projeté dans le studio derrière les acteurs. Donc il y a des différences selon chaque pays d'atmosphère, de plus de dialogue, plus de psychologie, moins d'histoire, mais le modèle tend à être universel. C'est un modèle universel qui va d'ailleurs être repris dans différents cinémas nationaux quand ils naîtront à travers le monde. Donc ça, c'est un peu la base du cinéma classique.
Donc en fait, aux États-Unis, c'est un pays apparemment sans histoire, parce que c'est plus complexe que cela. Et où la question de du statut de l'art n'est pas aussi ou pas autant un enjeu qu'en France. Alors qu'en France, il y a des réticences à reconnaître au départ, par exemple, le cinéma comme un art. C'est une bataille de gens comme Deluc, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur cette différence? C'est-à-dire, le cinéma américain ne se pose pas la question de savoir s'il est art ou pas, alors que, par exemple, en France, il y a une avant-garde française qui va effectivement défendre le statut du cinéma en tant que, enfin, en tant qu'art.
Le cinéma, parce que ça, je crois que je l'ai déjà dit, c'est à cause de cette situation des avant-gardes en Europe en général, parce que pour le problème, d'une autre manière, se posait aussi pour les Russes et pour les Allemands. Le problème ne s'est pas posé. C'est surtout s'est posé en France, parce qu'il y a en France, il y a toute une tradition de théorie et de critique et de cinéphilie depuis même avant la Première Guerre mondiale, et ça continue, et d'ailleurs ça a des effets dans la production des films, parce que toute une grande partie des cinéastes français, c'est des gens qui ont commencé par réfléchir et écrire, ou qui sont venus de la théorie, qui sont venus des revues du cinéma. Ça continue, c'est une spécificité. C'est en France ou en Europe en général, le problème du cinéma, par exemple, il y a le célèbre film, le célèbre livre de Arnheim qui s'appelle Le cinéma est un art. Tandis qu'en Amérique, le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que ça ne s'oppose pas en tant qu'art, c'est en tant que divertissement, entertainment. C'est depuis le début, ça c'est leur problème. Ils sont partagés. D'ailleurs, il y a un mépris complet de gens cultivés en Amérique pour le cinéma. Ça c'est un divertissement pour les enfants. Et on ne prend pas au sérieux. Ils ont commencé à prendre le cinéma au sérieux un peu après-guerre, quand il y a eu des films européens qui sont arrivés comme des produits intellectuels. Mais sinon, à l'égard de leur propre cinéma, ils n'ont absolument pas eu cette tendance-là. C'était un cinéma qui, avant tout, visait le divertissement. Et ça devait être. Et ce divertissement devenait parfois du grand art. Tandis qu'en Europe, le problème, c'est on va faire de l'art. Et ça ne veut pas dire qu'on réussit toujours. Ça, c'est une différence. Et d'ailleurs, les cinéastes américains ont toujours compris leur propre différence comme cela. C'est-à-dire que les films européens, des Européens, c'était des gens qui voulaient faire de l'art ou ils voulaient raconter des histoires. Donc ça, c'est à cause de cela. Il y a cette différence. Quand j'ai dit que l'Amérique n'a pas d'histoire, il y a une histoire, mais cette histoire, c'est plutôt c'est la répétition d'un projet qui est la réalisation du bonheur pour chacun. Quand on dit histoire en Europe, ça remonte à beaucoup de conflits sociaux depuis très très longtemps. Et,
alors cette tradition théorique critique en France, comme ça, elle va avoir des continuateurs, notamment deux, Henri Langlois, qui est fondateur de la Cinémathèque française avec Franju, et puis André Bazin. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces deux hommes? Parce que à partir d'eux, il va s'élaborer quand même, ils vont former des gens à aimer le cinéma, je crois, et puis aussi peut-être avoir un rapport autre au cinéma.
C'est-à-dire que on peut dire André Bazin, ça a été un genre de Saint François du cinéma. Langlois, c'est une sorte de Socrate. C'est-à-dire que Langlois n'a rien écrit, comme Socrate n'avait rien écrit. Mais par contre, lui, il a eu un amour de l'enseignement et une volonté de faire connaître. Et surtout, il était attaché au cinéma muet. Il était attaché au cinéma ancien. Quand il a commencé à vouloir sauver des films, c'était les films qu'il avait vus pendant son enfance, et il voulait absolument sauver ces films. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est de montrer cette richesse extraordinaire, et en voyant les films, un grand public de cinéphiles s'est formé, qui a eu une conscience de la diversité du cinéma, de l'histoire du cinéma. Et ça a joué beaucoup dans l'existence d'une modernité cinématographique, parce que la modernité, au cinéma comme ailleurs, ça se définit par une certaine relation à la tradition. Et donc cette modernité cinématographique, c'est en partie, se situe par rapport au musée, comme dans d'autres. Ça, bon, oui, c'était essentiel, et ça, je crois que d'ailleurs, beaucoup de gens lui rendent hommage, qui n'ont pas été directement à Paris, mais qui indirectement ont été influencés par ça. Tandis que Bazin, c'est autre chose, c'est une autre tradition, c'est la tradition un peu des ciné-clubs, mais en fait, Bazin, c'est une est une des plus grandes réflexions sur le cinéma, toute une théorie du cinéma, justement du cinéma comme l'image de la réalité. C'est ce qu'il appelle l'ontologie, le réalisme ontologique de l'image photographique. C'est pour lui, avec l'objectif, en absence de l'homme, la réalité se révèle pour la première fois sur l'écran. Donc, moi, j'ai parlé au début, on a parlé, j'ai dit que quand même, il y a la dimension de l'image, et ça, je crois que il est impossible. Cette réduction est impossible. La pensée telle que la pose André Bazin d'un cinéma simplement où il n'y aurait personne et que la réalité se révélerait à elle-même, c'est quelque chose qui est plutôt une sorte d'utopie. Mais cette utopie a une influence énorme à travers Bazin sur tous les gens qui ont écrit dans les cahiers du cinéma et qui ont été influencés par ça. Mais la théorie de Bazin elle-même n'a eu une possibilité d'existence que parce qu'il y avait le neuralisme italien. Beaucoup de ceux qu'on appelle, ceux qu'il aimait, ne sont pas acceptés par les autres tenants des cahiers de cinéma. Enfin, mettons que lui, il aimait beaucoup aussi Visconti, De Sica, etc. C'est surtout la figure de Rossellini qui sort, et ça, c'était extrêmement important pour, comme Rivette l'a dit, Rossellini, c'est l'entrée obligée du cinéma moderne. Mais on oublie que Bazin aimait deux cinéastes qui sont absolument opposés l'un à l'autre, qui pour lui étaient les deux pôles, ou enfin une sorte d'identité, parce qu'il croyait que l'autre cinéaste, il s'appelait Welles, il croyait que Welles faisait la même chose que Rossellini, tandis que Welles fait totalement le contraire de Rossellini. C'est totalement ce que Welles fait en permanence, c'est de montrer que l'image s'interpose entre nous et la réalité. C'est-à-dire que l'image est une représentation, ce n'est pas du tout une révélation de la réalité, c'est tout un travail sur l'image qu'il a fait. Donc avec Welles, c'est le premier Citizen Kane, c'est un film qui non seulement pose à l'intérieur du film la question du cinéma, mais en plus de ça, la pose, parce qu'il y a aussi dans le cinéma muet, il y avait la question du cinéma, le cinéma comme révélation de la réalité, par exemple dans L'homme à la caméra de Vertov, qui est une sorte de tentative de faire en sorte que là, il y ait une transparence entre l'image et la réalité, qu'il y ait une coïncidence des deux. Mais ce qui se passe avec Welles, c'est que cette possibilité est mise en question. Il n'y a pas de transparence, et en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, comme tout art moderne, Citizen Kane se situe par rapport à la tradition. C'est une sorte de reprise de l'histoire du cinéma, pour une fois une relation à l'histoire de l'Amérique, ce qui dans le cinéma hollywoodien n'existe pas, parce que c'est un cinéma qui est porteur de mythes, transformation du mythe en histoire, de l'histoire en mythe, tandis que la modernité, c'est la transformation du mythe en histoire. C'est-à-dire que la modernité a une relation critique par rapport à ce qui est mythique, par rapport à ce qui est émotionnel, par rapport à ce qui est la fiction, par rapport à ce qui est la réalité. Tandis que dans l'autre cinéma, le cinéma classique, c'était au contraire, ce qui était la réalité était porté justement à la limite sublime de la forme, et avec des forces émotionnelles et fictionnelles et mythiques énormes. Et c'est ça qui a fait la grande force du cinéma américain, tandis que Welles casse ce cinéma en morceaux absolument dans la dernière séquence de La Dame de Shanghai avec les miroirs. C'est complètement ce cinéma-là qui détruit. C'est pour ça que les gens qui aiment beaucoup le cinéma hollywoodien détestent Orson Welles. Alors, André Bazin, il croyait que c'était la même chose, les deux. En fait, Welles et Rossellini sont contradictoires, comme cette contradiction dont j'ai parlé dans l'existence de l'image cinématographique, qui est à la fois image de la réalité de l'image, et tout le cinéma moderne est né de la rencontre entre les deux. Par exemple, s'il y a beaucoup de Rossellini dans Godard, il y a beaucoup, beaucoup de Welles aussi. C'est toute la mise en question de l'image, des genres, de la réflexion sur le cinéma, toute la relation entre la parole et l'image qui est essentielle, le montage, la dimension du montage qui n'est pas un montage eisensteinien, c'est un montage beaucoup plus questionnante, et parfois aussi un montage dans certaines formes chez Godard de création. Mais enfin, il y a énormément de choses qui viennent aussi de Welles, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui viennent toute la nouvelle vague qui vient de Rossellini, et ça à travers Bazin, et les deux ensemble à travers Langlois, la formation.
originale du film Citizen Kane d'Orson Welles, la musique est de Bernard Herrmann. Nous retrouvons Youssef Ishakpour, qui est notre invité aujourd'hui dans Passerelle et qui a écrit un livre, Le cinéma, paru aux éditions Flammarion, petite collection Domino. Des passeurs, on peut dire, on va appeler ça comme ça, comme Henri Langlois, un peu le travail de passeur, et puis un critique qui permet d'amorcer une réflexion comme André Bazin, et puis à peu près en même temps, il y a un autre phénomène qui n'a rien à voir avec eux deux, mais qui apparaît, c'est la généralisation quand même de la télévision. Parce que dans votre livre, vous allez revenir sur les faits télévisuels, sur l'image du cinéma.
Je crois même que l'existence de la télévision est beaucoup plus importante que l'existence des passeurs. Parce que la télévision a eu un effet par rapport au cinéma de même nature que la grande presse par rapport à la littérature au XIXe siècle, ou l'existence de la photographie par rapport à la peinture. C'est ce que Benjamin appelait la perte de l'aura, ou l'impossibilité de la narration, le passage à quelque chose d'autre. Benjamin appelait l'aura ce qui, dans les choses, nous fait lever le regard. Ça, c'est une définition de l'aura. Une autre définition de l'aura, c'est l'unique apparition d'un lointain, aussi proche soit-il. L'aura, c'est une dimension, comme il disait, cultuelle. C'est, pour ne pas dire sacrale, mais il y avait cette dimension dans l'art ancien. Et à partir du fait de la reproduction technique et toute ce qu'il faut bien appeler le désenchantement du monde, et le fait, cette unicité de l'apparition, le lointain disparaît, tout est à disposition. Ce qui se faisait avec la photographie se fait 100 000 fois plus avec la télévision, parce que la télévision rapproche tout entièrement dans la familiarité, dans la proximité, mais tout à la disposition du spectateur, donc qui détruit tout effet de lointain, tout effet d'aura. Et l'existence de cela, je pense que ça a eu un effet énorme par rapport au cinéma, et toute la dimension mythique du cinéma, toute la dimension d'enchantement du cinéma s'est évanouie par le fait. Là où il y a la communication de l'information, en fait, la narration devient, ce qui était l'effet de la fiction, ce qui est l'effet de narration, devient quasiment impossible. Il y a, comme disait Benjamin, il y a des cas et il y a des lois qui les expliquent. Comme dans Citizen Kane, il y a quelque chose qu'on va vouloir expliquer. Donc, le film en tant que film, c'est une sorte de réaffirmation de la dimension d'œuvre d'art, de l'art, qui peut donner un sens qui n'est pas de l'ordre de l'explication. Que c'est déjà dans les premières tentatives du cinéma moderne, c'est cette dimension de ou communication, information pour Welles, ou alors la reproductibilité pour Rossellini, puisqu'il avait un petit appareil et qu'il a tourné immédiatement dans la rue, les studios étaient détruits, donc ça a été très important. Et quand il y a la généralisation de la télévision, il se passe aussi autre chose. C'est que pour la télévision, on invente un matériel léger, un matériel portable, qu'on peut travailler donc dans des décors extérieurs, dans des petits décors avec une petite équipe avec peu d'argent. Et ça, c'est essentiel dans la naissance de ce qu'on appelle la nouvelle vague. Parce qu'ils ont pu tourner dans des appartements, dans les rues, avec des peu de matériaux. Et ça a été essentiel. Je crois qu'il y a eu donc d'un côté l'effet de désenchantement de l'image et de l'impossibilité de la fiction, la destruction de la dimension mythique du cinéma. Parce que le cinéma hollywoodien, par exemple, ça existe encore, les grands films des années 50, c'est encore des films où ils ont cette dimension mythique, absolument. Que ce soit chez Nicolas Rech, chez Hawks. Mais ensuite, ce qui devient impossible, c'est parce que cette dimension a été détruite complètement. Et plus on rajoute des faits, moins ça devient crédible. Et plus, c'est parce que les films de plus en plus croient qu'en ajoutant, c'est-à-dire que c'est dans les films de Spielberg, ce n'est pas un serpent, c'est des milliers de serpents qui vous attaquent. Alors, plus il y a de serpents, moins on y croit, parce que ça devient impossible. Cette dimension est complètement disparue. Donc, la dimension de mythique disparaît, et en même temps, il y a cette relation à l'histoire du cinéma. En même temps, il y a cette réflexion, cette théorie du cinéma. Il y a aussi autre chose, quand même, la découverte de l'auteur du film. Parce que si l'auteur du film a été très important, c'est même Canudo qui avait dit que le réalisateur de film était le véritable auteur du film. Il ne faut pas oublier que l'idée, la politique des auteurs, le fait que le metteur en scène devient plus important que les vedettes, tout simplement parce que les vedettes, les stars, leur image est détruite par la proximité télévisuelle. Et c'est en fait le metteur en scène qui devient important. Donc c'est la conjonction, c'est une espèce de constellation qui produit ça.
Donc Garbo la divine, c'est fini.
Et dans ce tableau-là, il y a combien de personnages?
Il y en a pas mal. Faut que je compte. Mais ce soir, j'en ai assez des chiffres.
Moi, j'en vois un.
Vous parlez du passage, en quelque sorte, du cinéma classique au cinéma moderne, comme... tout de même une suite de l'histoire propre du cinéma, d'une certaine manière, et des effets de la généralisation de la télévision. Qu'en est-il, à votre avis, de l'importance manifestée par certains cinéastes, justement, de la modernité, comme Godard ou Duras, par exemple, d'un événement majeur entre les deux grands moments justement du cinéma classique et du cinéma de la modernité, c'est-à-dire les années 30 puis les années 50, de ce qui a été la Deuxième Guerre mondiale avec le nazisme, la solution finale contre les juifs, et finalement même après Hiroshima.
Disons que personnellement, je ne crois pas à l'existence d'une histoire interne de l'art. Je crois que l'histoire de l'art est déterminée de l'extérieur, mais que cet effet extérieur, en même temps, a des incidences au niveau des matériaux, des techniques et des formes à l'intérieur. C'est la conjonction des deux, mais il est évident, et je suis là tout à fait d'accord avec vous, et je pense que l'avoir écrit aussi bien dans ce livre qu'avant, que l'événement majeur, effectivement, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que ce qui a rendu possible le classicisme des années 30, c'est ce qu'on appelait en général les réalismes. Les réalismes, c'était un peu l'idéologie artistique de tous les pays, que ce soit le réalisme socialiste, que ce soit le pompiérisme nazi, que ce soit aussi bien l'idéologie du cinéma de l'art du Front populaire, que ce soit l'art du cinéma classique américain. Et tout cela, c'était sur un fond d'unanimisme et d'un ensemble d'illusions, comme disait la grande illusion de Renoir, qu'il n'y aurait pas de catastrophe. En fait, quand la catastrophe se produit aussi la brèche et le renversement de cinéma. Et je pense même les deux figures que j'ai nommées, que je n'ai pas inventées, qui sont aussi bien Rossellini et Welles. Rossellini directement sort de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il ne faut pas oublier aussi quand même qu'il avait fricoté un peu avec les fascistes en Italie. Et quand il fait donc les films comme Paisa ou comme Rome ville ouverte, c'est dans les ruines, sur les événements historiques, une sorte de présence de l'histoire sur les lieux même, donc ça c'est évident chez lui. Et Welles, il ne faut pas oublier aussi qu'il vient de toute la crise de la dépression, tout ce qu'il a fait au théâtre dans les années 30 aux États-Unis, c'est directement un théâtre politique, et il a voulu faire, même avant Citizen Kane, il a voulu faire Au cœur des ténèbres, qui deviendra plus tard le film de Coppola, Apocalypse Now, et qui était un film sur le nazisme et sur l'impérialisme. C'est-à-dire que c'est dit de manière immédiate, il y avait une conscience très nette de relation avec l'histoire telle qu'elle était, et ça je crois que de plus en plus, c'est pour tous les cinéastes qui sont venus après, c'est un événement majeur qui est déterminant, beaucoup plus déterminant que l'existence de la cinémathèque ou de la théorie de Bazin. déterminant au même titre, parce que je pense que l'existence de la télévision, c'était quand même une sorte d'événement majeur aussi, qui n'est pas le même, on ne voit pas les catastrophes de la même façon, mais enfin c'est un événement majeur aussi, c'est l'existence de la télévision, mais certainement la Deuxième Guerre mondiale est fondamentale.
Moi j'avais fait une émission avec Claude Ollier, qui écrivait dans les cahiers du cinéma à l'époque de Romère et qui est aussi un auteur du nouveau roman. Et Ollier, la première chose qu'il a dite dans l'émission, parce que je l'avais invité sur l'écran souvenir, enfin il a écrit un livre où il y a un recueil de ses articles, et la première chose qu'il a dit, c'est on ne peut pas filmer avant Auschwitz et après. Et lui, en tant que romancier du nouveau roman, il disait l'écriture après Auschwitz. Et donc, je crois que c'est effectivement une question qui détermine absolument non, aussi la conception de l'histoire qui n'est plus linéaire, mais peut-être aussi le fait que l'histoire, elle ne va pas forcément aller de l'avant, et que le fragment, la régression, etc. Donc, tout ça, effectivement, surgit dans le monde comme question. Je crois que c'est effectivement important. On pourrait peut-être un peu parler de la nouvelle vague, parce que justement, ce sont des cinéastes qui en font, d'ailleurs, je pense à René Hiroshima, Mon amour, ou Duras, donc effectivement Hiroshima, et puis Godard reviendront beaucoup sur ces questions-là. Mais est-ce qu'on pourrait un peu revenir sur la nouvelle vague, ce qu'elle va pratiquer exactement comme Brecht, et quelles vont être les caractéristiques du film de la nouvelle vague? Vous en avez déjà un peu parlé en termes, je dirais, d'économie, mais allons plus loin, du point de vue de la forme, quelles vont être les grandes ruptures qu'elle va opérer?
Je crois que la nouvelle vague, c'est une sorte de développement de la question, enfin du titre que Bazin avait donné à ses écrits. Qu'est-ce que le cinéma? Avant cela, on ne se posait pas la question. On faisait des films, parce que même on ne trouve jamais dans les écrits d'Eisenstein le problème de qu'est-ce que c'est le cinéma. Il y a toujours une définition de cinéma, mais on ne se pose pas la question. Une chose, à mon sens, qui détermine, qui pourrait définir la nouvelle vague, c'est toujours cette question, qu'est-ce que le cinéma? Alors, il y a une dimension de réflexion qui apparaît, qui est très important. Et en même temps, cette chose est très étrange, c'est qu'à partir du moment où on pense que le cinéma est l'image de la réalité, il y a une espèce de côté de présent, d'actualité, ça aussi c'est quelque chose qui est déterminant, pas pour René ou pour Duras, mais véritablement parce que ce sont des gens qu'on ne peut pas, on les met, ce sont des gens qui font du cinéma moderne, mais qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur de la nouvelle vague. La nouvelle vague directement, peut-être c'est les gens qui viennent de Bazin, qui viennent des cahiers de cinéma. Donc pour tous ces gens-là, tout film est en même temps un film documentaire sur le film, sur le moment de son tournage. Mais alors, plus on va vers cette dimension de vouloir être dans le présent, plus l'aspect de fiction et l'aspect de... Il y a une théâtralité qui s'introduit. C'est-à-dire que plus, à partir du moment où on affirme que c'est la réalité, ou c'est la révélation de la réalité, la fiction est mise à l'index, et la réalité aussi, par le même coup. Et le fait de filmer, qu'est-ce que filmer? Qu'est-ce que le cinéma? Ça, je crois que c'est une dimension qui est directement dans Romère, dans Rivette, dans Godard, évidemment, absolument. Et, tandis que des gens comme René ou comme Duras, la question n'est pas posée directement. La question est en quelque sorte détermine leur utilisation de matériaux, la manière dont ils arrivent quand même à garder, du moins dans la première partie de l'œuvre de René, l'idée d'une construction, tandis que par exemple des Godard, essentiellement ce qu'il fait, c'est de déconstruire, de défaire, tandis que tout le montage de René, c'est un montage qui part d'un monde absolument morcelé, déchiqueté, parce que c'est celui qui a eu quand même, par rapport aux gens des cahiers de la nouvelle vague, des cahiers du cinéma, il faut tenir compte que René d'ailleurs a formé en partie André Bazin, qui lui a prêté des films, il lui a montré des films, il l'a introduit à tout un aspect de cinéma que Bazin ne connaissait pas, donc pendant la guerre, surtout. Mais René, c'est quelqu'un qui a été marqué par une conscience de l'histoire, par une dimension politique qu'aucun des réalisateurs de la Nouvelle Vague n'a eu parce qu'ils venaient tous d'un autre bord politiquement, sauf Rivette. Rivette qui est la même chose, même à partir de Paris nous appartient, qui est un film magnifique, à part Rivette. Donc les autres, c'est peu à peu, même Godard, c'est une découverte qu'il a fait avec les événements des années 60, la dimension d'historicité. Tandis que là, c'était très, 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 très. Et ça, ce qui devient chez René, l'idée de la mémoire et du temps, la construction, oui. Et chez Duras, c'est la même chose, oui.
Bon, on pourrait peut-être donc, à partir de ces cinéastes qui commencent à faire des brèches, parler de la deuxième partie de votre livre, c'est un essai pour réfléchir, c'est-à-dire ce que vous appelez le désenchantement de l'image. Donc on y est d'ailleurs, on parle de la modernité là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui se passe aussi sur le public aussi? Parce que tout ça, ça entraîne des tas de choses. Le fait que le cinéma, il y a une perte, et j'aimerais que vous la définissiez, cette perte et ce désenchantement, puisque vous en parlez.
Oui, c'est-à-dire que ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire, il y avait dans la théorie de Benjamin sur la perte de l'aura, l'idée que, avec la photographie, et surtout avec le cinéma, justement cette dimension culturelle ou magique, ou sacrale, ou on dirait mythique, allait disparaître. En fait, c'est vrai que la photographie, la grande presse ont détruit ces dimensions-là dans l'art moderne. L'art moderne est né de la perte de l'aura. Mais, par contre, le cinéma a récupéré, en quelque sorte, parce que tout le cinéma, jusqu'à justement la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite jusqu'à sa conscience et sa réflexion, et jusqu'à l'existence de la télévision, qui est comme la photographie et la grande presse pour le cinéma, donc tout le cinéma était justement une sorte de récupération de cette dimension magique et mythique et émotionnelle de... Oui, c'est ça. Donc c'était plutôt ça, c'est-à-dire qu'il y a eu, un fonctionnement du cinéma qui était le contraire de ce que Benjamin avait pensé. Par contre, à partir du moment où il y a cette conscience historique et par rapport à la catastrophe de l'histoire du monde, par rapport à l'histoire du cinéma, par rapport à l'existence de la télévision, par contre, le cinéma se trouve dans la même situation que l'art moderne. C'est-à-dire qu'il devient, ce n'est plus la création de mythes, c'est une réflexion sur la dimension mythique, sur la fiction, sur la magie, sur l'image, etc. Donc c'est cela qui est producteur de cette dimension de désenchantement et aussi une relation de coupure avec le public. Parce que l'art moderne, déjà à sa naissance, c'était un art qui était opposé au public. C'était un art qui se refusait justement à devenir ce qui était dominant, c'est un art marchandise, genre en fait c'est une sorte d'industrie culturelle avant la lettre, qui est devenue de plus en plus dominant et qui domine maintenant. Et donc c'était l'art c'était quelque chose qui était contre cette dimension de simplement de divertissement marchandise de l'art. Et le cinéma à un moment donné, dans certaines de ses manifestations, a réuni les deux. Ce schéma a réussi à être la fantasmagorie de la marchandise, ça a créé une sorte d'univers de mythes, de magie et parfois de grand art, tout en étant une marchandise, tout en étant un grand public. Mais à partir du moment où il y a cette conscience qui se produit, et c'est passé la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une rupture entre le grand public et le cinéma moderne. La même chose qui s'est produit dans l'art moderne. Et je crois qu'il y a aussi le fait que la société a été intégrée de plus en plus. Avant, il y avait une sorte d'atomisation. Il y avait bien sûr l'industrie culturelle, mais tout ne fonctionnait pas dans un système unique. Mais à partir du moment où il y a tout le rythme de l'existence est fait par la télévision. Et en même temps, il n'était pas n'importe quelle télévision, c'est une télévision qu'en même temps liée extrêmement à la publicité. Et donc, ce lien entre image, marchandise, information et publicité qui fait que il y a non seulement le désenchantement de tout ce qui est image, c'est la dimension magique, la dimension, ou alors la révélation de sens, ou alors l'autre dimension du cinéma qui était la révélation de la réalité. Donc tout cela, ça devient de plus en plus difficile à réaliser.
Dans la télévision, c'est que la télé prétend représenter justement le réel. Et là, on voit qu'en fin de compte, le cinéma, même le, enfin, surtout le cinéma classique, au moins, disait bien qu'il était du cinéma. Par exemple, un déraillement de train chez Cécile B2000, c'est une maquette de train qui déraille. Je pense à Sous le plus grand chapiteau du monde, par exemple. Un déraillement de train avec des morts à la télévision, c'est une catastrophe en direct, ou une petite fille qui s'enlise dans la terre, une catastrophe en direct, et on sert ça à l'heure du repas, c'est obscène. Et donc là, il y a du point de vue, je crois, moral, dans l'histoire humaine, quelque chose de grave qui probablement se produit. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus ?
Oui, alors vous avez parlé d'obscénité, effectivement, moi au début des années 80, j'avais écrit un texte sur la télévision, l'avènement du monde comme obscénité. C'est le fait justement que toute chose est transformée en image, ça c'est effectivement dans toute photographie, ce qui fait que il n'y a aucune relation, on n'est pas à la différence de l'aura qui faisait lever le regard, donc toute chose est mise à disposition et toute souffrance où toute existence est mise à la disposition de tout le monde. Et avec la généralisation de la reproduction technique, c'est cette obscénité qui est comme une sorte de projection sur la Terre entière et sur tout événement. Et effectivement, l'immoralité, c'est ce que Benjamin appelait la beauté, il disait la beauté est un effet de voile. Et avec et il ne s'agit absolument pas, la beauté s'identifie avec cet effet de voile. Et là, avec la télévision, justement, il n'y a plus du tout cet effet, il y a même le contraire, et dans le fait que non seulement les événements, n'importe quelle catastrophe, est donné comme quelque chose d'indifférent, parce que de cette manière, sinon, on ne pourrait pas survivre. Parce qu'on est obligé de devenir indifférent, froid. Parce que sinon, si chaque jour en voyant cela, on ne peut pas survivre. Donc c'est forcément, on est obligé. Il faut qu'il y ait un désenchantement. Et en même temps, on ne sait plus ce qui est la réalité et ce qui est de la pure fiction. Parce que la fiction aussi est donnée comme étant de la réalité. Donc c'est, ou alors des réalités fictives qui sont fabriquées. Alors on ne sait plus. Alors cette dimension qu'on a dit de l'image comme la révélation de la réalité s'est transformée en son contraire. Parce que c'est d'ailleurs ce qui va se produire avec, enfin on n'en est pas là, mais avec les techniques de la production d'images sans original, alors on ne sait plus où est la reproduction, où est la réalité dans cette histoire.
Oui, c'est ça qui est grave. Donc aujourd'hui, le cinéma, il a quelle possibilité ? Parce qu'après ce désenchantement, à la fin de votre livre, vous réavancez les noms de Lumière et de Méliès, en disant qu'en fin de compte, continuer le cinéma, eh bien, c'est forcément continuer leur héritage. Parce que quel espoir là-dedans ? Je veux dire, bon, aujourd'hui, c'est la prolifération des images. Et en plus, vous introduisez, j'aimerais qu'on y vienne, à la notion de l'accès à faire des films, puisqu'on est quand même soumis à une économie qui décide de qui fait les films et qui n'en fait pas aussi.
C'est-à-dire que par le fait de l'existence et de la prolifération des images, je crois que le cinéma est obligé de devenir un art. Ce qui a été, à un moment donné, il avait en quelque sorte le monopole des images, le monopole du récit et le monopole de la fiction. Il n'a plus ce monopole-là, et donc il n'est pas du tout le vecteur direct du sens, donc il est obligé, le cinéma, de l'inventer.
Mais c'est Godard !
C'est Almereda, ça va ? Qu'est-ce que vous foutez là, mon vieux ?
Je suis chez moi.
Pas plus que lui, mais en moins, c'est ça qui vous chagrine ?
Oui. Ben oui, ça me chagrine.
Non, on n'est pas des pirates.
On, me semble-t-il, d'ailleurs, court après la télé pour faire la surenchère dessus. C'est ça, donc effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est que le cinéma s'affirme en tant qu'art contre le cinéma dominant, qui est en fait télévisuel.
Alors, le problème se pose, c'est que, en fait, là, on crie toujours et on veut détruire cela. C'est que, en fait, il y a une différence entre l'art et la marchandise. Et là, tout l'art moderne a été une des créations et une lutte en permanence contre cette dimension de marchandise de l'art. Alors, le cinéma, c'est avant tout une marchandise dans la mesure où il faut beaucoup d'argent. Pour faire un film, il faut beaucoup d'argent pour le sortir, pour le montrer, et c'est donc essentiellement un problème d'argent. La possibilité de faire du cinéma ou ne pas faire, je crois que, d'abord, quand l'art moderne s'est trouvé dans la même situation que le cinéma maintenant, ça a été une des époques les plus créatrices de l'art, que ce soit aussi bien au niveau de la peinture qu'au niveau de la littérature. Et donc, il y a ces possibilités pour le cinéma, mais simplement, ça coûte très cher. Et le cinéma a besoin de rentabiliser avec un public. Et s'il n'a pas de public, donc il ne peut pas le faire. Et ça, c'est le problème, je pense, le principal problème du cinéma, c'est ce problème d'argent et de public. Et sinon, je ne crois pas du tout que les possibilités du cinéma soient épuisées, dans la mesure où le cinéma s'est fait quand même, que ce soit en Russie sous le contrôle de l'État, que ce soit dans les autres pays sous les contrôles de producteurs, dans la mesure où ça a coûté toujours très cher. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est Hitchcock qui avait dit que si une toile blanche coûtait des millions de dollars et tout autant le pinceau et les couleurs, et on verrait ce qui en serait de la peinture ou d'art. Et là, c'est absolument impossible de chercher, d'expérimenter, de faire quelque chose de neuf, parce que ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça coûte très cher. Et c'est ça le problème du cinéma. C'est pas parce qu'il y a une sorte de faiblesse ou de pauvreté ou de manque d'imagination ou de manque de créativité, quoi que ça existe. Cela existe parce qu'on est arrivé à un autre moment de l'histoire. Il y a eu le moment de la Deuxième Guerre mondiale par rapport à laquelle qui a été déterminant. Mais il y a aussi une autre chose. C'est qu'on a dit toujours que l'art moderne était une dimension de l'utopie contre l'enfer de la modernité. Et c'est cette dimension d'utopie qui a disparu. Le cinéma aussi a partagé ça. Je pense qu'un des grands moments de créativité au cinéma, le cinéma vraiment moderne, ça a été autour des années 68. Ça a été un peu avant, depuis la fin des années 50, jusqu'à vers le milieu des années 70, le cinéma a été une création permanente. Et je pense que si on considère historiquement, certainement ce qui s'est fait dans le cinéma à ce moment-là, dans différents pays, est absolument plus important que ce qui s'est fait en littérature, en peinture, en musique. Ça, c'est certain. Ça, c'était un des moments les plus riches. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des grands écrivains français se sont mis à vouloir faire des films. Et il y a ça aussi. Et ça, c'était très important. Mais je crois que, en plus de ces problèmes d'argent et de problèmes de public, il y a aussi cette perte de la dimension utopique qui fait que la dimension avait la dévoile principe espérance, qui faisait que cette dimension, quand même, que la création était quand même quelque chose qui était en quelque sorte une invention de l'avenir et mise en question.
Voilà, cette question de l'utopie va clore l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il était question dans cette émission du livre Le cinéma de Youssef Ishakpour, paru chez Flammarion, petite collection Domino, et que vous avez pu entendre dans le cours de l'émission un extrait de Citizen Kane d'Orson Welles et des extraits du film Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma de Jean-Luc Godard.